Salut les smarts, salut les marques, bienvenue dans Catch Up, je suis Ringside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. C'est ici que toutes les semaines on résume et on analyse les émissions phares de la WWE. On va parler aujourd'hui du SmackDown du 30 avril 2021 et je suis accompagné pour cela par l'inépuisable Papy. Comment ça va Papy?
Bonjour les enfants, bonjour Ringside, et toi comment ça va?
Ça va la pêche
C'est la méga pêche. Ce 30 avril,
Voilà, le 30 avril. Là, on bosse quand même le 1er mai, hein, je ne vous cache pas.
Voilà.
Paris s'embrase, mais on est là.
Catch-up plein debout.
Voilà.
Ils ne nous auront pas.
Ils ne nous auront pas. Non. On est là, on est fiers, on représente. Et on représente depuis 5 ans déjà, les amis. Donc bientôt, c'est l'anniversaire de Catch-up, le Catch-up Anniversary. Et donc, on vous le rappelle, on vous l'a déjà annoncé, mais on va faire une foire aux questions, un live. On sera tous là, prêts à répondre à vos questions. Donc, on a besoin de vos questions. N'hésitez pas à nous les poser en commentaire de la page YouTube, par exemple, ou sur les réseaux sociaux, @catchupcdc sur Twitter. On répondra à toutes vos questions. C'est pour bientôt, on vous donnera une date à un moment donné.
Ben oui, ça va arriver. Restez connectés. Suivez tous les épisodes pour savoir la date.
C'est ça. D'ailleurs, si vous nous découvrez, par exemple, sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. C'est entièrement gratuit, figurez-vous.
Oui, chez nous, c'est gratuit.
C'est entièrement gratos, hein, c'est ça qui est fou. Vous cliquez sur la petite cloche, vous êtes averti dès qu'il y a un nouveau contenu qui sort, et il y en a beaucoup. On a, par exemple, là, cette semaine, une review de Monday Nitro, une review de NXT, tout ça, c'est en ligne. Allez vous jeter dessus si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on est bien sûr disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Vous pouvez aussi vous abonner d'ailleurs et je pense créer des alertes hein, pour tous les contenus nouveaux.
Il y a une petite cloche là où je sais pas quoi.
Voilà, une petite cloche, une petite étoile, n'importe. Mettez des pouces aussi si vous êtes sur YouTube pour dire que vous nous aimez. Et voilà, l'affaire est faite. Comme je vous dis, on est là plusieurs fois par semaine hein, pour vous résumer toutes les émissions de catch qui comptent. Et donc, du coup, on va parler catch aujourd'hui encore. On va parler de ce SmackDown donc du 30 avril. Alors, petit plat dans les grands. Hein. Gros programme ce soir. On aura un 3 versus 3 avec en action la championne féminine de SmackDown, Bianca Belair, et les champions tag team. C'est un match mixte. On aura aussi les championnes tag team féminines en action. Et on aura aussi un championnat intercontinental sera remis en jeu par le champion Apollo Crews face à l'ancien champion Big E. Et pour terminer, un énorme main event, puisque Daniel Bryan va jouer sa carrière à SmackDown face au champion Roman Reigns. Donc titre contre la place à SmackDown. Daniel Bryan, oui. Roman Reigns, c'est pour ce soir. Et ouais, je me suis pas foutu de ta gueule hein, quand j'ai préparé SmackDown.
Sacré programme. Hein. Là, il y a des champions partout. Là. C'est pas comme à Raw où les champions de tag team ils viennent même pas se ramener. Là, les champions sont partout dans tous les matchs.
C'est ça. Des ceintures partout, du prestige, des intervenants. C'est une grosse soirée de championnat à SmackDown. Et on commence avec l'arrivée de la championne Bianca Belair. Qui commence à nous taper un petit speech, mais elle est rapidement interrompue par les champions tag team, les Dirty Dogs, nos amis Dolph Ziggler et Robert Roode, qui expliquent que c'est normalement à eux d'ouvrir le show, hein, un peu de sérieux, mais ils sont très vite interrompus par les Street Profits, qui tolèrent pas trop que les Dirty Dogs interrompent la championne de SmackDown, qui a fait quand même le main event de WrestleMania cette année. Mais ils sont interrompus par Bayley, l'ancienne championne, qui arrive au milieu du ring et qui ne peut s'empêcher de rire face à Bianca Belair et aux Street Profits. Elle ne fait que rigoler jusqu'à ce qu'elle se prenne une bonne pêche de la part de Bianca Belair. Elle va riposter en mettant Bianca Belair à terre. Et puis c'est le bordel généralisé, hein, parce que les Dirty Dogs montent dans le ring, les Street Profits aussi, on se tape sur la gueule, c'est la pub. Et au retour, on a le match qui était prévu, donc c'est assez original, c'est un mixed match, hein, intergender un petit peu, même si évidemment, quand il y a les filles dans le ring, hein, les mecs doivent s'effacer hein, au profit de l'adversaire féminine. Donc d'un côté, les Street Profits, avec à leur côté Bianca Belair, la championne, et de l'autre, les champions, les Dirty Dogs, avec de leur côté Bayley. Et on a un gros match qui s'ensuit, avec notamment à un moment donné Bianca Belair qui va tenter de faire son finisher sur Dolph Ziggler, je crois.
Yes.
Tout ça se termine. Elles vont s'envoyer des grosses patates dans la gueule quand même au tout début du match, Bianca et Bayley. Ça m'a marqué un petit peu. Et le match se termine par l'enchaînement Spinebuster de Angelo Dawkins et l'énorme Frog Splash de Montez Ford, qui fera aussi un saut suicide à un moment donné dans le match. Il va aussi s'arrêter pour renouer ses lacets à un moment donné. Je sais pas si tu as vu. Donc méga Frog Splash sur Robert Roode pour la victoire des gentils. Donc la championne et les Street Profits, ses anciens champions. Voilà, un opener un peu bondissant, j'ai envie de dire, pour démarrer ce match, puis assez original puisque c'est un peu mixte. Qu'est-ce que t'as pensé de tout ça, mon bon papy?
Ouais, un petit opener original. Alors c'était la semaine, j'ai l'impression, où on a fusionné un peu les champions individuels et tag team, parce qu'on a eu ça à Raw avec tag team féminine et championne féminine. À NXT avec champion masculin, champion cruiserweight et tag team masculin. Et là, du coup, à SmackDown, on mélange les deux. On a championne féminine et tag team masculin. C'est un petit mix sympathique. Bon, qui n'est pas pour me déplaire, hein, c'était plutôt sympa comme configuration. J'étais content de voir Bianca démarrer parce que je trouvais que depuis quelques temps, les filles étaient systématiquement mises, tu vois, en début de deuxième heure de show, c'est-à-dire juste avant le main event, et donc on les casait tout d'un coup les filles en disant hop, faut bien les passer, donc on les passe maintenant. Mm-hmm. Donc là, elle avait au moins une vraie place. Bon, après, j'aimerais bien qu'elles aient une histoire un peu individuelle, juste Bianca et Bayley racontent un peu plus de trucs avec un vrai fil rouge tout ça. Mais bon, on va se contenter de l'opener du show. Le match était sympa, il a pas duré trop longtemps. J'ai trouvé les timings, donc il fait 6 minutes 44, donc c'est assez court quand même pour un opener, mais bon, avec tout le bordel qui est autour, je pense que c'est pour ça que le temps de catch était si court. Par contre, je sais pas si t'as remarqué, mais moi j'ai trouvé que Bayley était complètement, je sais pas si elle avait fait du fond de teint ou elle avait fait trop de bronzage, mais elle était bien bien noire, Bayley.
Ouais, elle a dû abuser de l'auto-bronzant. Ou alors ils ont eu un peu de soleil et puis elle a profité du soleil dans ce début de mois de, enfin, cette fin de mois d'avril, début de mois de mai. Ouais, c'est vrai qu'elle en, elle était rayonnante de bronzage, la belle Bayley. Ouais, c'est toujours un petit peu entre le style vestimentaire de Bianca Belair et la touche de Bayley, c'est parfois un peu délicat. Moi, j'ai trouvé qu'il catchait un petit peu, ça faisait un petit peu house show quand même le début du match. Avec notamment des fois Bobby Roode qui essayait de, je sais pas pourquoi, réagir avec le public. Ça m'a un peu gêné, mais bon, après, pour un opener, ça fait le taf, on va dire. Effectivement, ce serait bien d'avoir une vraie rivalité qui se crée entre Bayley et, enfin, du moins des vraies histoires un petit peu en solo. C'est bien pour cette semaine, mais il faudrait pas que ce soit la généralité de mélanger tout ça. Et puis il faut aussi une bonne rivalité pour la division tag team, mais apparemment il y en a d'autres qui sont sur les rangs, parce que un peu plus tard dans l'émission, je vais peut-être pas le faire en chronologique, on a Rey Mysterio et son fils qui sont interviewés par Kayla Brainstone. Alors il raconte un petit peu n'importe quoi, hein. Le fils Mysterio, il dit que quand il regardait son père, il pensait que c'était un super-héros, maintenant qu'il est en équipe avec lui, c'est un peu comme s'il était un super-héros aussi. Bon, ça on s'en fout, mais en tout cas Kayla Braxton leur dit qu'il y a peut-être un match tag team qui se préfigure pour eux après leur victoire face à l'Alpha Academy. Ouais, donc visiblement on les a dans les starting blocks, mais on a aussi les Street Profits apparemment qui veulent une part du gâteau, donc je ne sais pas, qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, mais moi ce qui me gêne un peu avec les Street Profits, c'est qu'ils ont un traitement un peu new day, c'est-à-dire qu'ils sont en permanence soit champion soit challenger numéro 1 leur BB ailleurs. Alors là, c'était pas mal aujourd'hui, parce que le fils son mystérieux, il a encore beaucoup à apprendre. Bah, au moins, ça rafraîchit un peu l'eau de la carte de les voir. Surtout contre deux mecs ultra expérimentés. Là, t'as le fils mystérieux qui sera avec Ziggler, Roode et son père. Là, pour le coup, il serait bien, bien encadré pour progresser, quoi. Donc,
une fois que t'es pas dans la title picture, t'as un peu rien à foutre, quoi. Donc,
Ouais, t'as quatre équipes, dont les Street Profits qui sont tout le temps en haut. Donc,
ouais.
Ça réduit les possibilités.
C'est ça, ça c'est pas très épanouissant, mais bon, effectivement, comme tu dis, bosser avec Ziggler et Rude et Mysterio pour le petit Dominique, c'est pas plus mal. Parce qu'il y a encore du boulot quand même avec Dominique Mysterio, hein, je voudrais rien dire, mais c'est un peu léger pour le mettre aussi souvent à la télé. Alors ensuite, on va tout au long de l'émission, on va avoir des segments avec les différents membres du roster qui donnent un peu leur pronostic pour le main event de ce soir. Qui est quand même construit comme un gros événement. Hein. Le match entre Daniel Bryan et Roman Reigns, c'est pas du tout sous-vendu. Donc, on a entre autres Nakamura qui va nous dire qu'il attend quand même Roman Reigns au tournant si jamais il gagne. Il y a Booker T qui est là, qui mise sur Roman Reigns. On a le New Day avec d'un côté Xavier Woods qui parie sur Daniel Bryan et de l'autre Kofi Kingston qui parie sur Roman Reigns. Et on a notamment Seth Rollins qui a une musique de film. Alors, je crois que c'est du Hans Zimmer. Hein. J'ai l'impression que ça vient de Man of Steel ou peut-être Batman v Superman en musique de fond. Et il nous explique que c'est assez facile de donner le résultat. Mais finalement, non. Et finalement, il va s'occuper de Daniel Bryan. Sûrement la semaine prochaine, si c'est possible. Ou en tout cas, il est aussi sur les starting blocks, ce bon vieux Rollins. Sachant que la semaine prochaine, il va affronter Cesaro. Hein, si je dis pas de bêtises.
Et ils l'annonceront plus tard. Mais c'est oui. La partie Rollins était tellement longue. Et en plus, elle se faisait dans l'espèce de ring d'interview là, qu'ils ont à l'écart. Et du coup, sur le coup, avec la musique derrière, je crois que c'était une nouvelle musique de Rollins, ou j'en sais rien, j'ai pas compris que c'était un prono, en fait, parce qu'il y a tellement baratiné avant d'arriver sur la partie prono, que sur le coup, j'étais un peu surpris. En plus, c'est le premier à passer, je crois.
Ouais.
Après, une fois que j'ai compris que c'était des pronos, je me suis dit, bon, ok, dès qu'il y avait la musique, je me suis dit, ah, bon, ok, c'est pour les pronos. Et c'est vrai que c'est, sur le coup, la partie Rollins, c'était un peu zarbe, mais effectivement, là, il nous boucle le match step up pour le futur contender là qui se prépare tout doucement.
C'est ça, il va être le premier premier adversaire à passer pour Cesaro s'il veut aller s'attaquer à Roman Reigns. Roman Reigns qui ne veut pas l'affronter, hein, de toute façon. Il considère que Cesaro, c'est pas du main event material. Donc voilà, Seth Rollins qui reste un petit peu à sa place là dans le roster comme un des top heel. Et puis on essaie de nous builder le main event comme quand même un match historique là avec l'intervention de tous ces personnages de l'univers de la WWE. Toi, ça te convainc, toi, ces passages là où moi perso ça fonctionne pas trop sur moi, mais je suppose que ça a un petit intérêt pour essayer de monter ça auprès du spectateur lambda.
Ouais, alors moi ça me convainc pas plus que ça, parce que pour le coup, je sais déjà que ça sera un gros match. J'ai pas besoin qu'on me le dise. Par contre, je pense que pour le public de la Fox, c'est bien de dire attention ce soir-là, attention, vous allez avoir du gros gros niveau. Et donc personnellement, ça me touche pas, mais je trouve ça bien. Je trouve que c'est une bonne idée de mettre les petits pains grands, de dire attention là ce soir. Regardez ce qui a tombé là, ça va tomber vraiment sévère là.
Ouais,
ne zappez pas.
Ne zappez pas. Il y a un gros package vidéo aussi au début de show. Je ne l'ai pas mentionné. Donc, sur cette rivalité, Roman Reigns, Cesaro, Daniel Bryan, qui se termine sur ce match-là ce soir entre Daniel Bryan et Roman Reigns, dans un premier temps du moins. Alors, on a justement Daniel Bryan qui est interviewé en coulisses, qui nous explique que s'il gagne, il ne va pas donner tout de suite son rematch à Roman Reigns. Il va d'abord le donner, évidemment, à Cesaro, qu'il le mérite un peu plus. Bien gentil ce Daniel Bryan, n'est-ce pas ?
Ouais, un peu couillon même.
Un peu couillon, hein, on peut dire ça comme ça.
Je pense qu'il n'y a pas. Là pour le coup, je trouve ça un peu naze. Je pense qu'il n'y a pas besoin de ça pour vendre Cesaro en fait. Tu vois, pour le coup, je trouve que c'était un peu le trou. Il est tellement bon Cesaro que le premier à qui va le donner, ce sera lui parce qu'il est méritant et tout. C'est bon, on a compris, ça fait 3 semaines qu'ils nous le disent. Il n'y a pas besoin de raconter trop ça, quoi.
Ouais. Donc, la suite des opérations, c'est une interview dans les vestiaires de Nia Jax et Shayna Baszler, toujours accompagnée de Reginald par Megan Morant. Alors Baszler explique que d'accord, elles ont perdu en match simple, mais réfléchissez un peu, c'est la division tag team, hein, donc un peu de sérieux, les victoires en solo, on s'en fout. Et soudain, elles sont attaquées par Natalia et Tamina, qui les envoient contre le mur, dans les barres de fer là qui traînent toujours un petit peu partout, dans les couloirs de la WWE, dans les vestiaires. Donc voilà, Natalia et Tamina qui prennent un petit peu l'avantage, puisqu'après elles se dirigent tout de suite vers le ring. C'est l'heure du match entre donc Nia Jax et Shayna Baszler, les championnes, et Natalia et Tamina. Donc, bah, un gros match avec toujours les démonstrations de force de Tamina et de Nia Jax. On a Shayna Baszler qui brille un peu plus que dans les autres affrontements qu'elles ont eu, hein, tout au long de leur rivalité. Au final, Shayna Baszler va tenter un superplex, mais elle va se faire sonner par Tamina, qui va ensuite lui placer un superfly splash, alors que Natalia empêche sa partenaire de monter dans le ring. 1, 2, 3, et c'est une victoire un peu surprise des challengeuses. Bon, le titre n'était pas en jeu, mais c'est quand même la victoire de Natalia et Tamina. Reginald n'a pas pu intervenir, hein, il a aussi été un petit peu embarqué dans la bataille. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Est-ce qu'on en a pas marre un peu de voir à chaque fois cet affrontement-là? Ça fait au moins 12 fois.
Ouais, en fait, c'est marrant parce que moi, la rivalité me plaît beaucoup. Je trouve que Natalia Tamina, c'est la seule équipe valable dans la division tag team féminine. Mm-hmm. Enfin, ou du moins en ce moment, en tout cas, en termes de dangerosité, en plus, je trouve qu'elles fonctionnent bien ensemble. Et c'est malheureux, mais il boucle vachement mal le truc, je trouve. Moi, perso, bah ouais. J'aurais pas du tout fait ça comme ça. Déjà, le fait qu'on ait Nia Jax et Shayna Baszler qui soient là tout le temps, je pense que c'est pas une bonne idée parce que elles sont ils. On n'a pas besoin de chercher plus à les faire haïr. Enfin, ça me rappelle. Comment elle s'appelle, Sacha et Bayley, qui est aussi pareil, mais pour le coup, elle est à un niveau dessus, quoi. Là, Shayna et Nia, elle ferait juste des squats à Raw de temps en temps, et puis une fois de temps en temps, elle voit SmackDown pour provoquer un peu les autres, ce serait très bien, en fait. Il n'y a pas besoin de les voir catcher toutes les semaines. Et puis pareil, Natalia et Tamina, en fait, le souci, c'est que elles sont là, à chaque SmackDown, elles dominent les championnes. Et puis ensuite, eh ben, il y a le Raw qui passe d'après. Les championnes, elles font une histoire qui n'a aucun rapport avec les autres championnes à glisser sur leur cul et tout bordel. Qui pour le coup, dévalorise vachement les championnes. Puis Zou, elle revient à SmackDown. Elles refont leur rivalité avec Natalia et Tamina. Enfin, il y a un truc mal goupillé là-dessus. Je pense qu'ils ont tort d'essayer de mettre les championnes tag team sur les deux rosters en même temps. Ils devraient juste fixer la rivalité sur Natalia Tamina et Nia Baszler. Ça roulerait tout seul, en fait. Mais tu sais, genre avec des squats, tu entends de chacune des équipes, puis tu entends, elles se croisent, elles se font des interviews. Mais là, les faire, enfin, tu n'arrives pas à suivre l'histoire, et ben, du coup, c'est pas intéressant. Je l'avais déjà dit la semaine dernière que les filles, malheureusement, ils vont pas assez franco, puis ben, là, c'est pareil, en fait. C'est qu'ils font des demi-trucs, des demi-segments, des demi-idées, et du coup, c'est plus lourd qu'autre chose, en fait. Et c'est dommage parce que franchement, là, on avait deux équipes, en plus deux équipes un peu badass, là, ça donnait envie de les voir foutre sur la gueule en pay-per-view ou dans un show spécial où elles se remettent les ventes, ou j'en sais rien, enfin un truc sympa, quoi.
Ouais, sachant qu'il y a aussi le problème que ben, la fin, ils ont déjà booké la fin avant de démarrer la rivalité, puisqu'ils ont eu un affrontement à WrestleMania. Alors, ce qui est bien, c'est que le catch s'améliore, je trouve. Le match était bien meilleur que celui de WrestleMania, j'ai trouvé. Mais comme tu dis, effectivement, les faire venir à Raw et surtout les faire catcher à Raw, les championnes, ça dévalorise le truc parce qu'effectivement, comme tu dis, elles sont placées dans des segments qui sont plus ridicules qu'autre chose, donc ça les dévalorise un peu. Et du coup, ça entame un peu le prestige de cette rivalité là avec Tamina et Natalia qui sont pour le coup en grande forme. Ouais, il faudrait effectivement se contenter, je pense, de faire des segments au micro à Raw. Et puis donner un petit peu de place à d'autres filles, à Monday Night Raw. Mais au moins, ils respectent le truc du fait que la ceinture tag team des filles, c'est transversal à tous les émissions télé. Que ce soit voilà, il faut que ce soit présenté dans tous les rosters. Maintenant, voilà, quand on s'attache trop à respecter certaines règles, ça ne fonctionne pas forcément du mieux. C'est pas le plus efficace du moins. Voilà, un petit peu d'overdose de Nia Jax et Shayna Baszler, qui à la base sont pas les plus motivantes du roster non plus. En espérant que ça s'améliore dans les semaines qui viennent, mais effectivement, on a du mal à vouloir jeter à la poubelle toute cette rivalité entre Natalia et Tamina, parce que, comme tu dis, elles sont quand même pas mal crédibles pour le coup, Natalia et Tamina, ce qui est assez étonnant pour deux vétérans de compenser les civets, hein, quand même, pendant longtemps.
Yes, elles reviennent bien.
Elles reviennent bien, voilà, comme quoi tout arrive à la WWE. Et notamment, par exemple, un repackaging d'Aleister Black et ses petites vignettes où il nous raconte son enfance, où il nous expliquait que son père, le Dark Phaser, quand il était petit et qu'il se sentait un petit peu exclu, il lui expliquait que le problème venait pas de lui, mais de tous les autres. Il pourrait nous donner un petit peu les clés pour nous en sortir, hein, nous dit-il, Aleister Black, mais il ne le fera pas. Voilà pourquoi on voyait pas Aleister Black. Ils étaient en train de préparer des vignettes avec un gros travail d'animation.
Yes. Bon, alors, ouais. Sur le coup, moi convaincu celui-là. Le premier là, avec le dragon, je trouve c'est un peu mystique et tout. Là, le gosse mal aimé dans les au lycée.
Ouais, ça fonctionne pas. Hein.
Ça redescend un peu là.
Ouais, c'est ça. Enfin, moi, ce qui m'inquiète, c'est que je vois déjà le truc venir. Ça va durer genre 6 semaines et puis derrière. Si ça se trouve, il aura même pas de push ou rien du tout, quoi. C'est casse-gueule, ces trucs-là. Hein. Donc on sera content si derrière, ça se concrétise par contre quelque chose de vraiment important pour Aleister Black. Mais si c'est comme pour faire comme beaucoup, où ils enchaînent les segments comme ça, vidéo, puis au final, tu les vois 2 semaines, et puis ils se disent « Oh bah non, ça marche pas, on fait autre chose. » on grasse les dents déjà un petit peu.
Ouais, mais ce qu'on disait avec Tonton, en fait, c'est que déjà, on pense que ça, enfin, pour moi, ça sera pas avant Backlash cette affaire, donc on en est parti pour quelques semaines, on va le voir juste faire des vignettes.
Mm.
Et même si après il débarque, ça va être costaud pour trouver une place dans le roster, hein, parce qu'il y a du. Il est bien rempli ce roster de SmackDown, là. On voit que sur les 2 heures, là, il y a du mal à trouver. Les gens ont du mal à trouver leur place. Aleister Black, va falloir qu'il se batte pour trouver sa place dans les rivalités là, ou au moins qu'il y ait des gens qui prennent un peu des congés. Mais
ouais, en plus, il est heel.
Et voilà.
Il y a beaucoup de heel. On va réussir à se placer, hein, entre Rollins, Apollo Crews, Reigns, Sami Zayn. Qu'est-ce qu'il va lui rester à aller affronter le... Ouais, il y a le Baron qui traîne encore dans le coin. Au gros, il pourra soit attaquer Kevin Owens, soit Nakamura. Ouais. Honnêtement, Nakamura, il a une place qui est vraiment relative dans le roster. À moins qu'il vienne gâcher le match avec Cesaro, peut-être.
Peut-être.
Et après, ouais. Se lancer dans un truc avec Cesaro. Mais ouais, c'est
cas, t'as plus personne pour Reigns. Donc,
c'est ça. Alors, Reigns, c'est le grand mystère de savoir qui c'est qu'ils vont foutre contre lui après. Parce qu'ils sont en train de mais là on est en train de spoiler le final. Donc
on sait pas.
Hein, peut-être que c'est Daniel Bryan qui va gagner, on ne sait pas.
Oui. Ah mais je sais pas, moi je disais Reigns sans heel, j'ai pas dit un champion, hein.
C'est vrai. Alors. Donc pas facile pour ce bon vieux Aleister Black. C'est pas encore gagné, on va dire. La suite des opérations, Biggie, tiens, qui est interviewé après un petit résumé de sa rivalité avec Apollo Crews, hein, où on se souvient qu'il avait gagné le titre contre Sami Zayn et puis perdu à WrestleMania le titre grâce à l'intervention du commandeur Aziz dans le match des tambours nigériens.
C'est ça.
Et donc ce soir, c'est la revanche d'Apollo Crews, enfin de Biggie plutôt. Biggie qui nous promet qu'il va gagner, qui ramènera son petit bébé à la maison, la ceinture, hein, il mettra sa petite ceinture dans la voiture, il mettra la ceinture à la ceinture, et puis il deviendra pour la 3e fois le champion intercontinental, Three Time Intercontinental Champion. On va aller vers le ring. Et on a le match entre Apollo Crews et Big E pour le titre intercontinental. Le commandeur Aziz est dans la place. Alors, ça va se foutre sur la gueule. Alors, c'est quand même Big E qui domine pas mal le match, même s'il y a quelques retours d'Apollo, avec notamment un beau moonsault à l'extérieur du ring et puis un espèce de broke kick, j'ai envie de dire, hein, out of nowhere sur la face de Big E, mais tout ça, ça ne permettra pas de conclure le match. D'ailleurs, Big E va réussir à placer le Big Ending, mais évidemment, le commandeur Aziz intervient, c'est la disqualification. Cruz et Aziz vont passer à tabac Big E jusqu'à ce que Kevin Owens arrive, Kevin Owens, le sauveur, qui va se batailler avec les deux, mais malheureusement, il n'est pas assez costaud tout seul. Il y aura beau avoir l'intervention de Big E, ça ne suffira pas, parce que out of nowhere, Sami Zayn débarque, hell of a kick sur Owens. Les deux autres, ils vont repartir à la charge, hein, Apollo et le commandeur. Ils vont défoncer Owens et Big E. Ils sont victorieux, ils pavanent. Là, il y a Sami Zayn qui va aller chercher la ceinture intercontinentale et puis il reste bloqué comme ça un petit peu en regardant la ceinture. On sent qu'il a l'envie de récupérer sa ceinture intercontinentale. Alors ça, Apollo Crews et Aziz, ils le voient bien. Sami Zayn se retourne, tout de suite il s'excuse, il dit non, c'est bon, il n'y a pas de souci, tiens, prends ta ceinture, tu la mérites. Il soulève le bras de Apollo Crews en signe de victoire. Il soulève aussi le bras du commandeur Aziz, mais là le commandeur Aziz réplique en lui enfonçant son pouce dans la gorge, le Nigerian Nail, ça s'appelle, c'était le Samoan Spear je crois à l'époque quand c'était Umaga qui l'appliquait, ce violent coup de pouce qui coupe la respiration, et Sami Zayn est à terre, il s'étouffe, il est en train de mourir, et c'est les Nigérians qui sont triomphants, Cruz et Aziz. Beaucoup de monde dans cette course à la ceinture intercontinentale. Est-ce que toi, ça t'a plu tout ça, mon bon papy?
Oui, j'étais plutôt preneur parce que la semaine dernière, j'avais eu une petite interaction. Owens a eu un match contre Cruz. Et là, je m'étais dit, bon, c'est en one shot, ils vont chacun repartir dans leur coin avec leur rivalité. Puis non, en fait, ça. Le fait de fusionner les rivalités, ça se maintient et du coup, on peut imaginer un match intercontinental à plusieurs participants.
Ouais.
On a Apollo Crews qui a défoncé tout le monde, enfin surtout Commander Aziz qui a fait le boulot pour lui. Mais du coup, ça peut se passer intéressant. Moi, j'aime bien. Alors visuellement, j'aimais bien Sami Zayn avec les deux Nigérians parce que avec son style un peu Che Guevara là, il a un style un peu militaire, tout comme le Commander Aziz. Donc je trouve qu'ils étaient bien assortis, Zayn et Aziz.
Ouais.
Mais bon, manifestement, ils font pas à Miami.
Non.
Même si on est en Floride. mais voilà, c'est sympa. C'est un match sympa qui envoie du bois et qui pour le coup donne envie de voir la suite. Donc c'est plutôt bien et vivement qu'ils soient quatre dans le même ring en même temps là.
Ouais, je te rejoins. Du bon catch, des interventions, des rebondissements. Est-ce qu'on s'oriente vers un face turn de Sami Zayn? On ne sait pas. En tout cas, tout ne s'est pas passé comme prévu pour lui. C'est marrant qu'il s'intègre comme ça dans la rivalité. Non, tout ça, c'est plutôt bien trouché. C'est du bon SmackDown. J'aime beaucoup. Même si, bon, moi, j'appelle de mes voeux quand même à revoir Kevin Owens et Sami Zayn monter dans le main event. C'est un peu dommage de les voir un peu bas dans la carte. Mais bon, au final, ça permet d'avoir de bons segments, de bons matchs. Donc on va pas être trop difficile, on va dire.
Non, et puis moi j'ai pas là après Owens avait comme un gros passage en main event là de quelques mois. Il est redescendu un petit peu effectivement, mais Zayn par contre, je trouve que lui il est en progression constante, il est là, il est en permanence à SmackDown, il était à WrestleMania. J'ai l'impression qu'il est justement en train de, après des années à être un peu moyen, beaucoup blessé tout ça, j'ai l'impression qu'il redécolle enfin et moi je d'ici fin d'année, je serais pas étonné qu'à un moment, il soit dans le main event, ce garçon.
Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je pense que là, il est dans la pente ascendante. Et on devrait le voir atteindre des sommets quand même. Le Miz donne ses prédictions. J'en avais pas parlé. Il donne Roman Reigns.
C'est étonnant.
Et Cesaro, je crois qu'il donne Daniel Bryan. Tout ça est sympathique. Cesaro explique qu'il attend l'arrivée, enfin qu'il attend Roman Reigns au tournant, hein, tout simplement. Hein.
Ouais, c'est vrai qu'il parie sur Bryan, mais bon, il attend Roman Reigns pour le tabac de sa gueule. Et puis il accepte le défi de Rollins surtout, en disant, je tabasserai Rollins la semaine prochaine, et puis ensuite dans la foulée, j'irai à WrestleMania Backlash.
Clash, c'est là que ça va frapper. Ça va frapper dur. Quoi, King Corbin aussi a donné son avis, j'ai pas vu. Mais...
Si, si, mais ça dure 2 secondes, on s'en fout, je crois.
Ouais, ok. Bon, on s'en tamponne le coquillard. Ah oui, il y a une interview de Paul Heyman qui nous dit que bah, il nous retrace toute la carrière de Daniel Bryan en nous disant voilà, est-ce qu'il a battu tous les pronostics en s'incrustant à WrestleMania, en devenant le champion. Yes, yes, il a fait un retour malgré les blessures, une retraite anticipée. Il est revenu, il a battu la maladie. Yes. Est-ce qu'il va battre Roman Reigns? No, 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 no. C'était une prestation endiablée, enfiévrée de Paul Heyman, mais prévisible quand même.
Ouais, mais bon. Prévisible, mais en même temps, ça, je trouve qu'elle fait le taf. Pour le coup,
elle fait le taf.
Il a bien mis le bon ton et j'ai trouvé que ça vendait bien le match.
C'est ça, ouais. Tout était fait pour vendre ce match. Hein. Derrière, on a aussi un paquet de vidéos qui nous remonte la victoire de Daniel Bryan sur Triple H et Randy Orton et Batista à WrestleMania 30. Donc voilà, on nous rappelle un petit peu qui est Daniel Bryan. Donc il joue le titre ce soir hein, pour devenir champion universel et aussi sa carrière à SmackDown. Et je crois qu'on arrive au main event, hein, je crois qu'on a fait le tour.
Ah oui, depuis assez grand chose.
Ouais, c'est ça. Hein. Donc le main event, on a l'arrivée donc de Daniel Bryan. Et attention, on a aussi Roman Reigns qui débarque avec une toute nouvelle musique. Qu'est-ce que tu as pensé de son nouveau theme song?
J'étais surpris et ce qui m'a perturbé, c'est que j'ai pas reconnu assez l'ancien, ou je pouvoir pas du tout. Et je trouve ça toujours un petit peu dommage quand tu changes, alors à moins que quand tu as un thème aussi marqué, ne pas faire une variation sur le thème que tu avais auparavant. Tu sais, quand Pampouret qui fait une reprise de son ancien thème quand tu changes de personnage, tu as beaucoup de personnes comme ça qui. Nakamura a fait ça aussi, il a gardé son truc, il a rajouté des paroles dessus pour marquer qu'il était heel. Et maintenant qu'il fait, il a repris son truc sans parole. Mais je trouve ça bien d'avoir des thèmes en fait, qui évoluent avec le temps, mais toujours sur le même style. Strowman récemment il a un peu changé le sien et tu vois je me souviens des Rock et Austin c'est pareil et Jericho par exemple, ils disaient mec ils ont eu tout le temps le même thème mais ils variaient au fil du temps selon leur personnage ou Cody Rhodes à une époque il te faisait la même variation de thème en version heel, version face avec le miroir brisé enfin et voilà il y a toujours j'ai plein d'exemples en tête de thèmes en fait qui ont évolué avec le temps selon la personnalité du gars selon l'époque tout ça. Et là, ils ont juste tourné la page et je trouve ça un poil dommage. Alors après, peut-être que je vais m'y habituer, mais j'étais un poil déçu.
Ouais, je dirais pas qu'il est mauvais, mais c'est vrai que le changement est un peu radical. Je trouve que ça manque un peu simplement de basse au début. Au niveau sonore, c'est un peu léger, ça fait un peu féminin presque pour Roman Reigns. Mais c'est pas totalement mauvais, on s'habituera peut-être avec le temps, mais c'est peut-être un changement un peu trop radical. À voir par la suite comment on va l'assimiler ce nouveau theme song de Roman Reigns. Alors le match commence tout de suite très fort hein, puisque Daniel Bryan ce running drop kick la face de Roman Reigns pour démarrer le match direct dès que la cloche a sonné. Bryan qui va dominer un bon moment, il va travailler le bras hein, de Roman Reigns notamment en lui mettant un gros coup de pied alors que Roman Reigns tente son Superman Punch. C'est contré donc avec un gros coup de pied dans le bras. Il va y avoir aussi une séquence à l'extérieur là où Roman Reigns va tenter le spear sur Bryan qui va esquiver et du coup il va se manger la barrière d'insécurité et du coup affaiblir encore un peu plus son bras. Daniel Bryan il va dérouler un peu tout son catch hein, mais surtout ses prises de soumission. Et il va notamment placer Roman Reigns dans des clés de bras assez mortifères jusqu'à appliquer le Yes Lock. Alors, il est près des cordes. D'abord, Roman Reigns, il va essayer de les atteindre, mais Bryan va réussir à le ramener au centre du ring. À partir de là, il n'y a plus trop d'échappatoire pour Roman qui va devoir jouer de sa force herculéenne. Hein. Il va se dégager du Yes Lock par la force, plaquer au sol Bryan et lui enchaîner des gros coups de coude dans la face, dans la nuque. Grand Land Pounds, un petit peu, hein, comme on dit, façon mix martial art. Il va le récupérer en powerbomb, hein, le ramasser au sol et le soulever pour une grosse powerbomb. Je crois qu'il va le faire deux fois. Et après, bloquer Daniel Bryan dans la guillotine. Il va réussir à s'en sortir une première fois, je crois, Daniel Bryan. Mais ça va pas suffire puisqu'il va Reigns va récupérer son bras qui fonctionne parce que dans le premier temps il avait utilisé son mauvais bras et là Daniel Bryan ne s'en sortira pas. Alors le match est très long, hein. Ça doit durer une bonne demi-heure, mais au final Daniel Bryan s'évanouit dans la guillotine. 1 2 3 et c'est la victoire clean de Roman Reigns. C'en est fini de la carrière de Daniel Bryan à SmackDown, et c'en est peut-être fini de sa carrière tout court, puisque Roman Reigns va tout de suite descendre du ring, aller chercher deux chaises. C'est parti pour ce qu'on appelle le concerto, hein, c'est-à-dire qu'il met une chaise par terre, la tête de Bryan dessus, et il va taper sur sa tête avec la deuxième chaise. Mais là, il y a Cesaro qui débarque, le sauveur, qui vient mettre une grosse pêche dans la gueule de Cesaro, là. Voilà, l'uppercut des familles. Il commence un peu à péter la gueule de Roman Reigns, mais le main event, Jey Uso, le cousin, débarque, patate dans la gueule, super kick. Cesaro est sonné, et là, on va piéger Cesaro dans les cordes, à la manière d'André le Géant, là. Et on le force à regarder alors que Roman Reigns applique le concerto fatal à Daniel Bryan. Gros coup de chaise dans la tête. Et Roman Reigns regarde Cesaro en disant là, t'as vu, c'est qui le patron? L'incroyable domination de Roman Reigns. Le Reigns de terreur, qui ne prendra pas fin ce soir. La fin de carrière de Daniel Bryan à la WWE. Et un gentil Cesaro qui, malgré le coup de poing, reste impuissant face à Roman Reigns. Qu'est-ce que tu as pensé de ce main event historique, j'ai envie de dire?
Ouais, bah, historique. Alors attention, c'est autant que j'ai compris, c'est la fin de Bryan à SmackDown.
À SmackDown. Ouais. Ah oui, à SmackDown uniquement.
Donc moi, ce que je comprends, c'est qu'il va dégager, prendre ses clics et ses claques et aller ailleurs. Donc soit pour effectivement arrêter sa carrière, soit pour peut-être aller à Raw, je ne le souhaite pas à NXT. Ou une connerie comme ça, ou je sais pas trop, mais en tout cas pas à SmackDown. En tout cas, je le vois pas non plus revenir en tant que figure d'autorité ou une connerie comme ça. Pour moi, c'est clair et net. Il avait en plus accepté, il est face, il a accepté des règles en disant qu'il reviendrait plus à SmackDown. Il a perdu clean, donc je pense qu'on va plus le revoir. Gros match, ouais, tu disais quasiment une demi-heure, effectivement, 27 minutes 18, j'ai eu le timing. Si tu rajoutes en plus les grosses entrées et le beatdown final, t'y es largement plus d'une demi-heure. Donc, ils ont, voilà, comme on disait, ils ont annoncé devant tout le show qu'il allait avoir ce match-là, et bah, il a delivered, comme on dit.
Ouais.
Et puis, c'était bien de tous les côtés, là. On a eu des doutes, même si, bon, je voyais pas Bryan gagner. Mais avant, il a quand même bien coincé Roman Reigns, puis il a tellement pété le bras que tu disais il va peut-être le faire taper quand même.
Ouais. Et au final, il a placé aussi un running knee pour le compte 2-2. Il y a eu un spear pour le compte 2-2 d'un côté de Bryan, et Roman Reigns s'est relevé aussi du running knee dans la face. Hein.
Bah c'est là où il met le pied dans la corde, je crois.
C'est ça.
Par contre, le spear de Roman Reigns, moi, je sais pas toi. Mais à aucun moment j'ai pensé qu'il ferait le tomber dessus. J'ai l'impression que le spear de Roman Reigns c'est plus du tout vendu comme destructeur par rapport à ce qui était une époque. Il a pu tenir et voilà. Moi, pour moi, c'était pas du tout le finish. J'ai vraiment pas cru une seule seconde que Bryan allait tomber là-dessus, quoi. Et donc voilà. Je voulais dire un truc que j'ai zappé. C'est pas grave, ça reviendra peut-être. Mais bon, voilà, gros match. Et puis si. Voilà, c'est le moment où Reigns se sort de la soumission de Bryan, là. Tu vois son regard qui change, et là, je me suis dit, c'est fini pour Bryan, il va plus rien faire. Et effectivement, il a plus mis aucune offense, il s'est pris les coups au sol, les powerbombs, puis il a plus rien du tout fait. Et je trouve ça bien, quelque part, quand t'as le mec où tu sens qu'il ôte tout, puis tu sais, on en parle pour Karrion Kross à NXT, ou Taker à une époque, c'est le mec, il se met en mode de destructeur ultime, et puis là, tu peux plus rien faire, quoi. Et Brian, bah, il est plus au niveau pour résister à ce niveau-là, puis il se fait écraser. À voir du coup qui du coup va pouvoir empêcher Reigns de poursuivre son règne, comme tu le disais si bien. Mais j'ai des gros doutes sur Cesaro pour l'instant. Chaque fois que je le vois, il transpire pas assez de charisme quoi là pour l'instant. Il est puissant tout ça, mais il faut qu'il devienne plus violent ou je sais pas. Enfin, il faut qu'il fasse quelque chose. Là. Pour l'instant, il me fait pas du tout contender comme on peut le faire Bryan ou comme on peut le faire Owens. Là, Cesaro, il faut qu'il se mette au niveau là, vite.
Ouais. Surtout que là, son sauvetage de Bryan, ça a pas fonctionné malgré c'était assez percutant quand il est arrivé sur Roman Reigns. Mais là, on sent qu'ils sont à 200% sur Roman Reigns pour en faire vraiment le top guy de la fédération avec une aura qui va concurrencer celle de Goldberg ou de Brock Lesnar ou de. Alors, on n'est même pas sur la même catégorie que Cena parce que Cena, c'était un babyface. Mais alors Roman Reigns, il a essuyé beaucoup de critiques parce qu'on disait qu'il trichait, t'es pas le heel dominant que tout le monde voulait, etc. Blablabla. Là, ce soir, il a gagné clean de chez clean. Et comme tu dis, il y a eu ce moment où il se libère du yes lock par la force. Et après, effectivement, Daniel Bryan, il peut plus rien faire parce que c'est la bête Roman Reigns qui le défonce à coup de coude. Powerbomb, guillotine, tu t'en sors pas de la guillotine. Et voilà, là, il a nettement surclassé in-ring en point de vue qui est faible, effectivement. Hein, je vais pas. D'accord, Daniel Bryan a peut-être plus de qualité in-ring que Roman Reigns, etc. etc. Mais là, d'un point de vue qui est faible, le plus fort, le plus balèze dans l'histoire, c'est Roman Reigns. Yes. Clair, net et précis. Et à partir de là, je vois vraiment pas du tout Cesaro aller faire tomber Roman Reigns. Je vois pas dans quel monde c'est possible. Donc ça va être un bon adversaire de transition. Mais alors derrière, je suis quand même curieux de savoir qui c'est qu'ils vont envoyer. Et à mon avis, on va pas le savoir tout de suite et on va pas le voir venir tout de suite. Qui sera le mec qui va faire tomber Roman Reigns?
Est-ce qu'ils vont faire revenir Edge? Mais non, il s'est pris un pin à
Edge, à mon avis, même s'il vient, il se fera laminer. Là, je pense qu'il va marcher sur tout le monde pendant un bon moment, hein, Roman Reigns. C'est pas pour me déplaire, personnellement, tout que généralement, il fait des bons main events. Mais je pense qu'on va l'avoir genre, comme champion jusqu'à ce qu'on ait déjà un gros affrontement encore au Survivor Series avec le champion d'Euro. Il sera sûrement soit encore une fois McIntyre, soit pourquoi pas Bobby Lashley.
Et pourquoi pas McIntyre, parce que d'ici là, il y aura eu la draft de rentrée. Hein, donc,
ouais, ils vont sûrement... Quelque part, je les vois bien. Drafter McIntyre à SmackDown pour l'établir aussi comme l'autre top guy de la fédération. Quoi.
Alors là, par contre, tu auras un SmackDown tour puissant si tu as McIntyre et Rayleigh. Mais bon, ça... pas pour me déplaire parce que pour le coup c'est le genre de truc que tu as envie de voir, une rivalité sur le long terme avec eux.
Ouais.
Juste une fois par an aux séries, là ça serait plutôt pas mal quoi.
C'était ce qu'il y avait de mieux l'année dernière quasiment, hein, cette rivalité McIntyre Roman Reigns, parce qu'ils jouent dans la même catégorie maintenant quasiment. Donc et à SmackDown t'as personne d'autre qui joue dans cette catégorie là vu qu'ils ont pas voulu faire passer Kevin Owens un peu plus haut. Et que même Bryan, il s'est placé, mais il n'était pas vraiment dans cette position quand il est arrivé. On l'a un peu survendu sur Mania.
Mais après, voilà, c'est un mec comme Owens, tu vois, je trouve qu'ils ont la bonne idée de le mettre ultra agressif.
Ouais.
Il pétait la gueule à Reigns quasiment toutes les semaines et se faisait péter la gueule aussi. Enfin, c'était des échanges non-stop. Et c'est ce qui a manqué sur, c'est ce que j'espère qu'ils vont faire sur Cesaro. Si
tu veux
voir Cesaro, il va falloir qu'au bout d'un moment, il tape Roman Reigns, quoi. Sinon,
ouais, c'est ça. Il va falloir qu'il soit beaucoup plus agressif. Je pense que Roman Reigns est assez malin pour amener Cesaro à faire ça. Donc, oui, je suis optimiste quand même. On a aussi.
Oui, moi, je pense que ça sera bien quand même.
Ouais. Donc voilà, comme on le disait, un SmackDown historique avec un main event quand même de grande qualité. La semaine prochaine, donc Seth Rollins affronte Cesaro, qui devrait quand même être super cool. Hein, on a vu ce qu'ils ont fait à Mania, c'était quand même de la balle. Donc on va attendre ça de pied ferme. Mais maintenant, c'est l'heure du mot de la fin. Un top, un flop, une note. Ben, je te redonne la parole, hein, mon bon papy, dis-nous tout.
Et oui, effectivement, me revoilà, me revoilà. Bon, mon top, sans souci pour le main event. Hein,
ouais.
Trop dur. T'as une main event de demi-heure avec tout ce qu'il faut comme histoire racontée qui est passionnante. Donc, t'as pas chié là-dessus. Au niveau flop, le flop, alors ça m'embête toujours de le donner aux filles, mais en même temps, il y a vraiment pas grand-chose à acheter dans ce SmackDown, en fait. Hein. C'était, on l'a dit en ouverture, t'as eu 4 matchs avec tous les champions que t'as présentés. Mais le seul truc qui me dérange un peu, c'est encore une fois, c'est Shayna Baszler et Nia Jax qui sont partout en fait. Je le mets sur ça, mon flop, donc c'est un flop moyen, mais c'est voilà, j'ai besoin de continuité. Moi, j'aimerais vraiment qu'elle se focalise sur Natalia et Tamina, juste couper par view. Après, elle passe à autre chose, mais au moins couper par view, arrêter de faire les conneries quoi. Alors, je sais que ça s'est pas passé dans ce SmackDown, mais rien que de les voir apparaître à l'écran, je me suis dit ah ça y est, c'est encore les connasses qui font de la merde à Raw, et donc voilà, donc c'est un peu ça mon flop. C'est un flop par je sais pas comment dire ça, par procuration, non, pas vraiment ça, mais bon, par défaut. Voilà, c'est un flop de Raw qui vient me pourrir mon SmackDown en fait.
C'est ça, c'est le show rouge qui vient polluer le show bleu,
exactement. Et du coup, ma note, c'est un super SmackDown quand même. Hein. Je trouve super bien fait. C'est un peu particulier à noter, je trouve, hein, parce que t'es toujours dans l'univers Thunderdome, mais en même temps, le taf il était super bien fait, quoi. Les matchs, il n'y a pas eu vraiment de
foirage.
On aurait pu, ça aurait été le feu, quoi.
Oh là là.
Et donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais donner mon maximum sans public, et donc je vais donner un 4 pour ce show qui était super bien fait, je trouve.
Alright, moi je vais donner mon flop à. Moi je vais donner, tu vois, je vais donner mon flop à l'entrée de Bianca Belair et son costume là. J'ai cru comprendre donc qu'elle faisait ses costumes elle-même. C'est tout à son honneur, mais c'est quand même des costumes dégueulasses. Et puis son entrée, faut qu'elle change maintenant. Hein. Elle n'arrive plus à tourner sur elle-même comme elle le faisait avant. Ça fait pitié quand elle arrive au ring, elle est championne maintenant, un peu de sérieux. Et tu remarqueras que c'est un détail hein, complet. Le top, je vais le donner au main event aussi. Hein. Écoute, on peut pas tourner autour du pot. Quand ils mettent comme ça les petits plats dans les grands, qui nous servent quelque chose de réussi, on peut que saluer l'effort, sachant que s'il y avait du public, ça aurait été encore plus énorme. Donc voilà, félicitations pour ce moment event, et je vais te rejoindre aussi sur la note, je vais mettre un bon 4. Effectivement, le seul point noir, c'est qu'il n'y avait pas de public.
Ouais.
On peut dire que effectivement, l'enchaînement des pronos par les gens du roster, c'est pas le plus efficace pour nous, mais quelque part, ça crée une soirée un peu événementielle, quoi.
Exactement. Mais bon, c'était un super SmackDown.
Voilà. Ça nous rattrape un petit peu de Monday Night Raw qui est toujours salement insipide. Donc voilà, bien joué à WWE, bien joué Roman Reigns. Et on attend avec impatience la semaine prochaine pour voir Cesaro affronter Seth Rollins.
Oui, en attendant, c'est lancé là.
Là, c'est lancé, ça va être beau, ça va être chouette. On va en attendant se retrouver très rapidement pour la review de Monday Night Raw, la review de NXT. Je vous rappelle hein, que vous nous retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Twitter c'est @catchupcdc, Facebook, on est aussi sur Instagram, on est donc sur YouTube, vous vous abonnez si c'est pas déjà fait, la petite cloche pour être averti dès qu'il y a quelque chose qui sort. Je vous rappelle que vous pouvez nous poser des questions pour la foire aux questions des 5 ans, donc ça dans YouTube ou sur Twitter @catchupcdc, et puis on est bien sûr sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Plusieurs fois par semaine. Papy, merci beaucoup d'être venu pour ce SmackDown historique et merci pour tes analyses de grande qualité.
Mais merci, Eric, pour cette invitation et puis pour cette présentation de ce SmackDown qui faisait bien chaud au cœur.
C'est vrai, là, on est requinqué pour le week-end, requinqué pour les vacances, c'est magnifique. Voilà, toujours un plaisir hein, de reviewer ça avec toi. On espère que ça vous a plu à écouter, les amis, autant que nous à enregistrer. Et puis, il n'y a plus qu'à vous dire au revoir et à bientôt. Ciao, bye bye.
Salut à tous.
Peuple de ketchup.
Ouh là, tu n'as pas tenu la note là.
Non, je tiens pas la note.